Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont voici les principaux titres. La situation des Roms en République tchèque s'améliore selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le nombre de Slovaques vivant en République tchèque augmente. Et puis enfin, en football, le Slavia Prague reçoit le FC Séville ce jeudi soir avec un quart de finale de Ligue Europa pour enjeu. La situation des Roms en République tchèque s'est améliorée dans la majorité des domaines de la vie et elle est aujourd'hui meilleure que dans les autres pays européens possédant une importante minorité rome. Pour autant, les habitants roms en République tchèque continuent d'être désavantagés par rapport aux autres catégories de la population et ce, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi ou du logement. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent des dernières enquêtes menées par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Leurs résultats ont été présentés à Prague dans le cadre d'une conférence qui portait sur le nouveau programme du Fonds norvégien pour les droits de l'homme, le soutien aux Roms et la prévention des violences faites aux femmes. L'agence a comparé les données d'une dizaine de pays européens pour les années 2011 et 2016. Le nombre de ressortissants slovaques vivant en République tchèque a doublé depuis 2007 selon les données du ministère de l'Intérieur et de l'Office tchèque des statistiques. Leur nombre s'élevait à près de 117 000 au début du mois de février. Parmi eux, un peu plus de 50 000 étaient détenteurs d'un titre de séjour permanent. Sur ces 117 000 ressortissants étrangers employés dans des entreprises tchèques, deux tiers sont des Slovaques. Parmi eux, un tiers sont diplômés de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, un peu plus de 21 000 étudiants slovaques sont inscrits dans une école supérieure ou une université en République tchèque. Prague est la 69e ville au monde offrant la meilleure qualité de vie selon l'enquête 2019 réalisée par le cabinet Mercer qui voit les agglomérations européennes rafler les premières places du classement. Pour la 10e année consécutive, Vienne arrive en tête de ce classement devant Zurich 2e, Vancouver, Munich ou encore Auckland. À l'autre bout de l'échelle, Bagdad referme la marche. La capitale tchèque arrive elle en première position parmi les villes de l'ancien bloc de l'Est, suivi par Budapest, Bratislava et Varsovie. Un mot de football, le Slavia Prague accueille le FC Séville ce jeudi soir en match de retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Après le résultat nul, 2-2 lors du match aller en Andalousie la semaine dernière, une victoire ou un nouveau résultat nul mais sur le score de 0-0 ou de 1-1 qualifierait l'actuel leader du championnat tchèque. Dans un stade d'Eden qui sera plein pour l'occasion, le Slavia tentera de se qualifier pour les quarts de finale d'une compétition européenne pour la première fois depuis 19 ans. On termine ce bulletin avec un mot de météo. La grisaille reste de mise sur l'ensemble du territoire ce vendredi, jour de la fête des Ida. À l'exception de l'est du pays, il pleut un peu partout avec un vent souvent violent, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi, et des températures qui varient entre 5 et 10 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Alexis Rosenzweig pour la suite de ce programme. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce programme. Merci à Guillaume Narguet pour les infos. Guillaume Narguet que nous retrouverons dans un instant pour la rubrique du tchèque du bout de la langue. Au programme, avant tout ça, aujourd'hui, eh bien, il y aura de la chorégraphie de la danse avec l'entrée du chorégraphe tchèque Jiří Kilian à l'Académie française des Beaux-Arts. Et puis nous parlerons également du mouvement des Fridays for Future, un mouvement qui prend également dans la jeunesse tchèque. Ce sera dans un instant avec Daria Margolina. Je vous souhaite une très agréable écoute du programme. Une coupole, un ministre, une épée, une princesse. La cérémonie organisée à Paris mercredi était solennelle à souhait pour l'entrée du chorégraphe tchèque Jiří Kilian à l'Institut de France, l'Académie des Beaux-Arts. C'est Caroline de Monaco qui a remis son épée à Jiří Kilian après son installation officielle par son confrère Hugues Gall. Et comme le veut la tradition, le chorégraphe a fait dans son discours l'éloge de son prédécesseur, le peintre Leonardo Cremonini, mort en 2010 de la mort. De jeu de mots et jeu de corps avec la mort, il en a été question pendant cette cérémonie chez ceux qu'on appelle en France les immortels, car ils occupent un poste à vie et que la fonction se perpétue, perpétuelle. L'Académie tente aussi de s'étendre à de nouvelles disciplines, raison pour laquelle une 9e section, celle de la chorégraphie, a été créée l'année dernière. Et le nom du chorégraphe tchèque de 70 ans est ensuite apparu comme une évidence. Jiří Kilian ne cachait pas sa joie mercredi soir.
Ce n'est pas si simple parce que parmi toutes les récompenses possibles, celle-là met la barre très haut. Le problème est de savoir où aller après. Mais bon, maintenant que je suis immortel, même si je tombe d'aussi haut, je ne crains pas la chute. Non, je plaisante sur l'immortalité, mais cette récompense est très importante pour la danse et la chorégraphie. La danse a toujours été négligée, elle a toujours un peu été le parent pauvre dans le monde culturel, mais je suis heureux que désormais la chorégraphie soit appréciée à sa juste valeur. Pour la danse, cette reconnaissance par l'Académie des Beaux-Arts est une chose importante et j'en suis très heureux.
Ta chorégraphie se vlastně dostala tímto na úplně jinou příčku.
Cela dit, Jiří Kilian devra encore se méfier de chutes potentielles car il n'a pas réellement acquis le statut d'immortel conféré aux académiciens et avant tout aux membres de l'Académie française. Il fait partie des membres associés étrangers, au même titre que Woody Allen, Farah Pahlavi ou Sheikha Moza, les épouses respectives de l'ancien Shah d'Iran et de l'ancien émir du Qatar.
C'est surtout uznání všeobecné.
C'est une reconnaissance en soi, cela n'entraîne pas d'obligation pour moi. Mais cette Académie des Beaux-Arts a un rôle de conseil pour le gouvernement. C'est aussi pour ça que le ministre français de la Culture était présent à la cérémonie. Les académiciens n'ont pas de pouvoir au sens propre du terme, mais ils ont la possibilité d'influencer positivement la culture.
La cérémonie parisienne de mercredi était forcément placée sous le signe de la danse et le spectacle a été assuré par la danseuse allemande Sabine Kupferberg, l'épouse de Jiří Kilian. Jiří Kilian qui a dit quelques mots de cette chorégraphie.
C'est un jeu compliqué. La musique est du compositeur anglais Henry Purcell. Les deux arias sur lesquelles Sabine a dansé concernent la mort. Et la moitié de la salle étant composée par des immortels, l'autre moitié par des mortels. Donc c'est un jeu sur ce à quoi nous survivons et ce à quoi survit l'art une fois que nous mourrons tous. Car l'art sera toujours là et cette académie existe pour soutenir l'art. Et je reste une épée, ce n'est pas le symbole de l'immortalité, mais le symbole de la défense de l'art, quitte à avoir pour se faire une épée à la main.
Jiří Kilian est devenu le deuxième tchèque de l'histoire à devenir membre associé étranger de l'Académie des Beaux-Arts en France, après le peintre Václav Brožík, élu en 1896. Seul le compositeur Antonín Rejcha, connu en France sous le nom d'Antoine Rejcha, a obtenu le statut d'académicien à part entière, c'était en 1835. Retour à Prague. En décembre dernier, à l'occasion de la COP24, Greta Thunberg, jeune militante écologiste suédoise, dénonçait l'inaction des politiques face à la crise écologique actuelle. Depuis, lycéens et étudiants du monde entier organisent chaque vendredi des manifestations afin de revendiquer une justice climatique pour un futur durable. En République tchèque aussi, les jeunes ont leur mot à dire. C'est un reportage de Daria Margolina.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. The year 2078.
Suite au discours de Greta Thunberg, visage de ce nouveau mouvement intitulé Fridays for Future, Vendredi pour le futur, de nombreuses manifestations se sont tenues un peu partout dans le monde, y compris en République tchèque. Plus de 50 pays ont rejoint le mouvement après la publication alarmante du 5e rapport d'évaluation sur les changements climatiques des Nations Unies, en octobre 2018. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 12 ans est le temps qu'il reste pour changer drastiquement le modèle économique actuel et diminuer les émissions de gaz à effet de serre au risque de perturber notre environnement de manière irréversible. En République tchèque comme ailleurs, les conséquences du changement climatique sont déjà visibles.
Thanks to the heat waves that we encountered in the last 2 years, the droughts that were there, you know.
Ancien conseiller œuvrant pour le développement durable du Parti Vert, František Vozecký agit désormais au sein de Pro Planetu, pour la planète en français. Cette organisation indépendante a pour but d'éveiller la conscience des Tchèques grâce à des campagnes de sensibilisation sur l'environnement, des rencontres et des techniques de communication et de marketing.
À cause des vagues de chaleur de ces deux dernières années, les gens ont réalisé qu'il n'y avait plus d'eau à mettre dans leur piscine. Si on regarde les statistiques de l'année précédente, l'opinion publique a rigoureusement changé sur le changement climatique. Celui-ci est désormais perçu comme une menace. Les gens ont peur, mais ne savent toujours pas ce qu'il faut faire et ne réclament pas d'action radicale pour renverser la tendance.
I think people are afraid, but they still don't know what to do and they don't demand the action yet.
Pourtant, le nouveau mouvement Fridays for Future tente de déclencher ce passage à l'action. Vendredi 15 mars, une grève internationale pour le climat aura lieu dans le monde entier. František Vozecký, qui a décidé de quitter un parti des Verts auquel il reprochait l'inaction, soutient les jeunes activistes tchèques. Selon lui, la mobilisation des étudiants pourrait réunir une audience sensible aux questions environnementales en République tchèque et pousser les principaux partis au pouvoir à examiner leurs priorités. Pour rappel, le Parti des Verts tchèques n'a recueilli que 1,46% des suffrages aux élections législatives d'octobre 2017.
Ce vendredi 15 mars, jour de la grève internationale pour le climat, les étudiants tchèques rejoindront le mouvement. J'ai d'ailleurs participé à leur première réunion à Prague, où de nombreux jeunes de tout le pays étaient présents. Et je précise qu'ils n'étaient pas là pour sécher les cours, non. Si les étudiants sont là, c'est parce qu'ils veulent de l'action et des solutions. Je pense que nous sommes prêts à revendiquer nos droits.
They were there because they want some action, they want to solve it. I think we are ready.
Lucie Smolkova, lycéenne à Brno, participe activement au mouvement. Elle aussi souhaite transmettre le message que le mouvement Fridays for Future essaie d'insuffler au gouvernement et aux adultes en général.
To get this topic about climate.
Nous souhaitons que la thématique du changement climatique et de ses enjeux soit davantage débattue. Ainsi, les politiques et les médias pourront commencer à traiter ce sujet tel qu'il est, autrement dit comme une crise, pour que nous puissions commencer à la résoudre. Nous savons que nous ne sommes pas des scientifiques, que nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous pouvons mobiliser les gens qui partagent les mêmes craintes sur le futur de leurs enfants et faire en sorte que ces peurs soient entendues. Dans un pays démocratique, nous devons exprimer ce que nous ressentons et demander aux politiques de faire quelque chose pour les citoyens, car notre futur est le futur de notre planète. Cela devrait être notre première priorité.
Les étudiants considèrent donc qu'il est paradoxal d'étudier et de construire leur avenir alors que celui-ci semble d'ores et déjà fort compromis. Las d'attendre que les adultes réagissent face à cette crise, les jeunes expriment leur colère et tirent la sonnette d'alarme. Lucie Smolkova.
I would say there's quite a gap because we are being grown up.
Je pense qu'il existe un fossé entre les anciennes générations et la nôtre, car nous avons vécu dans des mondes différents. La plus grande différence que je constate est la quantité et la vitesse des informations que nous recevons chaque jour. Nous devons les trier, les évaluer et réagir en fonction. Au contraire, les générations plus âgées étaient confrontées à un seul point de vue et on n'exigeait pas d'eux qu'ils pensent de manière critique pour prendre leurs propres décisions.
Malgré les nombreux avertissements qu'ils ont lancés, certains scientifiques considèrent que les politiciens ne proposent pas de solutions à la hauteur de l'enjeu écologique. Faute d'être écoutés, ces scientifiques soutiennent donc la mobilisation des étudiants. Pavel Jungfirf, chercheur à l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie des sciences tchèques, a ainsi déclaré aux côtés d'autres scientifiques que dans cette situation où la production de dioxyde de carbone par habitant est toujours considérée comme l'une des plus polluantes du monde, il semble que nous ne considérions pas le changement climatique comme un problème. Nous pouvons réussir à passer à la prochaine génération uniquement en mettant rapidement en place des actes concrets comme réduire nos émissions de gaz à effet de serre, prendre soin de nos terres agricoles, de nos forêts, de l'eau en milieu rural et d'autres aspects de l'adaptation climatique. Ainsi, les lycéens, les étudiants activistes et leurs pairs ne verront pas leur futur gâché. Devant cette urgence, le climatologiste Alexander Hatch ajoute que l'attitude active des jeunes est considérée comme tout à fait légitime.
C'était un reportage de Daria Margolina. On passe à la suite du programme en français. Et c'est tout de suite avec Guillaume Narguet et avec une rediffusion de l'une de ses rubriques Le tchèque du bout de la langue, dans laquelle il sera question de l'argot, ou plutôt de quelques mots employés spécialement dans la ville de Brno en Moravie.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
En fait, ce dialecte, c'est le tchèque qu'on a appris. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas un dialecte. Pour nous, c'est le tchèque. Et après, c'est plutôt quand on va à Prague que ça nous semble bizarre comment ils parlent. Voilà, ils ont un accent différent, ils ont des mots différents.
Lors de notre dernière rubrique, nous avions donné la parole à Emmanuel et à deux de ses amis francophones qui vivent à Ostrava pour qu'ils nous parlent de leur apprentissage du tchèque ou, comme ils l'affirment eux-mêmes, de
l'ostravština,
soit l'ostravien, un mot inventé par nos soins, et pas très joli d'ailleurs, pour désigner le dialecte de la ville d'Ostrava et de la région de Moravie-Silésie. La Moravie, nous allons y rester en descendant néanmoins vers le sud-ouest et sa capitale,
Brno.
Et ce pour y découvrir un autre dialecte que ses habitants, et plus généralement les Tchèques, appellent le
Brněnský hantec,
que l'on peut désigner lui aussi comme le patois de Brno. A fojárů, co počpila se měli špicové moravské hrnek, ale sajzlovské bazmek byl furt vylágrovaný. Tak Kingoška libu nahokla dolifrovat nabitýho přemu voráča. Borci mazali na tutáč, až přemu dotlačili. Zmákl tak bytelné vocht, že celá moravská sajtna zadula. Přema na špilás, tam se s libou ovoloval a bačoval jak těžké kink. Loin de nous l'idée de vouloir faire la promotion d'une marque de bière. Néanmoins, il y a quelques années de cela, la grande brasserie de Brno, appelée
Staro Brno,
littéralement Vieux Brno, avait diffusé sur les chaînes de télévision nationale une série de spots publicitaires dans lesquels sa production était mise en valeur dans le parler local, à savoir donc le
Brněnský hantec.
Le tout avec des sous-titres de façon à ce que le tchèque de Prague, Plzeň, Liberec ou České Budějovice puisse comprendre. La preuve, si besoin en est, que ce parler de Brno est bien particulier et que le mot qui le désigne
hantec
ne figure pas dans le dictionnaire, ou tout du moins pas dans les dictionnaires dont nous disposons. Son origine se trouve néanmoins assez facilement dans le mot
hantirka,
qui désigne tout à la fois un patois, un jargon ou un argot. Par exemple, ce que l'on appelle en français l'argot des prisons ou l'argot carcéral se dit
Vězeňská hantírka.
Mais le
hantec
de Brno est davantage que de l'argot ou un jargon. Bien qu'il ne soit pas reconnu comme une langue à part entière, il s'agit d'un dialecte qui, ne serait-ce que dans sa version traditionnelle ou historique, est difficilement compréhensible pour les autres Tchèques. C'est d'ailleurs ce que reconnaît Zuzana Cirlajová, professeure de français dans un lycée de Brno, lorsque lui est posé la question de savoir comment les étrangers qui viennent s'y installer s'intègrent à Brno.
Je dirais que peut-être le plus grand obstacle reste la langue, même si il y a maintenant des programmes d'insertion pour les étrangers pour les jeunes à la fac, mais aussi pour les expatriés. Je sais que la mairie de Brno organise aussi un service particulier. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut poser problème. Mais à part ça, je pense que les gens avec lesquels je parlais se plaisent. J'en connais beaucoup qui sont venus juste pour passer un peu de temps et sont restés. Parce que le rythme de vie, les activités, les relations entre les gens, ça leur a plu.
En réalité, ce ne sont bien entendu pas des cours de
Hantec,
mais bien de tchèque que la municipalité de Brno propose aux nouveaux arrivants. Ne serait-ce déjà que pour leur apprendre à prononcer correctement le nom de la ville, comme s'en amuse Zuzana Lubedelbel, native de Brno, elle aussi professeure, mais d'histoire-géographie dans un lycée parisien.
Effectivement, pour un Français, c'est assez difficile à prononcer. Donc, quand on dit la ville de Brno, ceux qui parlent allemand en général y arrivent un peu mieux. Sinon, pour expliquer à un Français, je dis que c'est une ville qui se trouve près d'Austerlitz, alors qu'il y a 400 000 habitants à Brno, il y en a 20 000 à Austerlitz, parce qu'ils connaissent bien sûr la bataille d'Austerlitz, même s'ils ne savent pas toujours que cette bataille a eu lieu en République tchèque, ou à l'époque dans l'Empire autrichien. Et en fait, pour le dire plus précisément, le plus simple, c'est de dire qu'elle est entre Prague, Vienne et Bratislava. Quelque part, si on fait un triangle entre les trois villes, on trouve Brno au milieu.
Comme souvent, lorsqu'un mot est composé d'une suite de consonnes difficiles à sortir de la bouche sans risquer un claquage de la langue, les Tchèques cèdent en intercalant un E muet entre deux consonnes. Dans le cas de Brno, ce E muet se trouve, vous l'avez peut-être reconnu ou entendu, entre les deuxième et troisième consonnes. Quant à l'étymologie, si elle fait l'objet de certaines controverses, l'hypothèse la plus probable veut que le mot Brno donc provienne du vieux tchèque
Brnen, Brno,
du vieux tchèque qui signifie
hlinitý, blátivý, bažinatý,
c'est-à-dire en français argileux, glaiseux, boueux, marécageux. Et Kid, de ce dialecte ou patois spécifique à Brno, nous direz-vous, sachez donc que le
Hantec
est issu à la fois de la langue tchèque telle qu'elle est parlée en Moravie et des langues des autres résidents de Brno, notamment des Allemands et des Juifs, bien plus nombreux autrefois qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il en est ainsi pour quelques-uns des mots les plus connus de
Hantec,
comme
Chalina,
qui tire son origine de l'allemand
Elektrische Linie
et désigne un tramway, ou encore
Sonne
pour soleil de l'allemand
Sonne.
Se fait sentir également l'influence du romani, comme pour
Love,
par exemple, qui n'a rien à voir avec le love, l'amour des anglophones, puisque le mot désigne de l'argent, du fric. Plus proche géographiquement de Vienne que de Prague, Brno, la Morave, est une vraie ville d'Europe centrale, comme le confirment nos deux Zuzana, et cette diversité et richesse culturelle se retrouvent bien entendu dans le parler local.
On sent en tout cas la proximité de la Slovaquie par le nombre de Slovaques dans les rues de Brno. Quand on se promène à la piscine, dans le magasin, j'ai entendu déjà parler slovaque. Il y a aussi beaucoup d'étudiants slovaques parce que c'est le cas de toute la République tchèque. Ils n'ont pas de droit d'inscription à payer. Ils peuvent étudier dans leur langue. Donc il y en a beaucoup qui font leurs études en République tchèque. Après, l'influence de Vienne, donc il y a déjà l'influence architecturale dont nous avons parlé. Souvent, quand on a parlé du cimetière juif tout à l'heure, ou aussi les cimetières un peu plus anciens, on y voit sur les pierres tombales beaucoup de noms allemands. Donc effectivement, on sent qu'il y a eu cette présence allemande très importante avant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ce que j'ai voulu dire, qu'en fait Brno était souvent considéré comme une banlieue de Vienne presque. Et on le voit surtout dans l'architecture, beaucoup d'étrangers disent que ça ressemble beaucoup par le style du centre-ville, que Brno ressemble plus à Vienne qu'à Prague par l'ouverture, la largeur des rues et beaucoup de maisons du début du siècle. Il y a beaucoup de bâtiments en art nouveau parce que aussi c'est la période peut-être de la plus grande prospérité de la ville. Avec l'essor industriel de la fin du 19e et début du 20e siècle. Et en effet, à Brno, il y avait une très très importante minorité, presque majorité, germanophone, expliquée d'un côté par la proximité de l'Autriche et aussi par des rapports historiques depuis des centenaires. En fait, Brno était une ville beaucoup plus allemande que Prague dans l'histoire. Par exemple, la rue piétonne principale, qui s'appelle la rue tchèque, Česká, s'appelle ainsi parce que le centre-ville était habité surtout par des Allemands. Et dans cette rue-là, c'était la seule rue au centre-ville habitée ou essentiellement habitée par les Tchèques.
Très pratiquée au tournant des 19e et 20e siècles, notamment dans les couches de la population les plus populaires, le
Handtet
est cependant devenu nettement moins courant aujourd'hui et il n'en reste finalement plus essentiellement que l'usage de quelques mots qui font néanmoins toujours le charme de Brno et tant pis pour les habitants de
Prague
qui ne les comprennent pas, ou tant mieux, c'est selon bien entendu le point de vue.
C'était Guillaume Narguet, aidé par Alžbeta Rouškova pour cette rubrique « Le tchèque du bout de la langue » consacrée aux mots spéciaux employés dans la ville de Brno en Moravie. Si vous nous écoutez là-bas ou à Prague, une seule adresse pour nous retrouver sur Internet à toute heure de la journée ou de la nuit, vous le savez, www.radio.cz, www.radio.cz/fr pour accéder directement à nos pages en français. Nous sommes également sur Facebook et sur Twitter, alors tous à vos claviers. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de nuit, où que vous soyez dans le monde. À très bientôt. Ahoy !